Bonjour à toutes et tous, rebonjour à toutes et tous. Vous écoutez Radio BLV 93.6, c'est le grand direct aujourd'hui, spécial salon des cépages et terroirs oubliés. Nous sommes à Chabeuil, au centre culturel. Une quinzaine, 15 vignerons et vigneronnes vous attendent au centre culturel aujourd'hui jusqu'à 19h, demain de 10h à 18h. Et tout ça, c'est orchestré par l'association Terre de Treille. Alors, les cépages et terroirs oubliés, on en a beaucoup parlé, on en a parlé ce matin dans le premier temps de direct. Et cet après-midi, cet intermidi, devrait-on dire, entre midi et 14h, eh bien, je vous propose de rencontrer cinq vignerons et vignerons et pas vigneronnes. Là, ce ne seront que des garçons qui vont nous raconter un petit peu à la fois leur histoire et puis leur cépage. Pendant ces deux heures, on aura aussi, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Luc, notre rêveur baroque. Bonjour.
Oui, Jean-Luc. Bonjour à tous.
Qui nous a rejoint parce que vous savez bien qu'il met son grain de musique de partout où il passe et qui nous a concocté des accords, musique et vin qu'on retrouvera pendant ces deux heures.
Avec plaisir.
Mais pour commencer, eh bien, c'est peut-être un des plus jeunes du salon. Enfin, c'est sûrement un des plus jeunes, le plus jeune, je ne sais pas. Mais c'est un des plus jeunes que nous accueillons tout de suite, c'est Thomas Merle. Bonjour Thomas.
Bonjour, bonjour à tous.
Thomas Merle pour le domaine Buis-Materi, une histoire de transmission dans les terres de Provence. Alors, Thomas, vous êtes basé où? Parce que du coup, c'est la famille. Donc...
Oui, c'est en famille, oui. Nous sommes basés à Hyères, vraiment la commune méditerranéenne, bord de mer et soleil.
Alors je dis une histoire de transmission parce qu'effectivement, il y a deux générations qui travaillent ensemble sur le domaine.
Alors, la première génération a pris sa retraite.
Ah, bon, et voilà. Très bien. Il n'y a pas longtemps,
oui,
elle travaillait
non,
encore.
Oui, absolument.
Elle doit pas être loin.
oui. Mais disons que là, on a fini le processus en quelque sorte. Mm-hmm. Maintenant, j'ai repris l'exploitation avec ma sœur qui s'occupe plus de la partie administrative et commerciale. Et moi, je continue la production. Après, vous savez, une transmission, ce n'est pas forcément quelque chose qui se ressent dans le temps. C'est un continuum. Si on regarde même à travers la gamme du domaine, on peut retrouver des vins dont je suis un peu l'instigateur, voire le créateur, et qui datent de bien avant que je reprenne véritablement, officiellement, administrativement parlant, l'exploitation.
Bien sûr.
Et pour autant, j'ai aussi conservé tout ce que mes parents avaient mis en place de cuvées. Donc tout ça, c'est quelque chose qui se suit. Quand on me demande quand est-ce que tu as commencé, j'en suis bien capable de dire. Vous voyez, c'est...
Oui, parce que c'est ce qui s'appelle tomber dedans quand on est tout petit.
J'ai un petit côté Obélix. Heureusement, bon, les auditeurs ne voient pas, mais ça
non,
ne
non,
se...
Non, il est tout à fait, il est très
voilà,
fin.
Ça ne se voit pas.
Et dès le début, ça t'a plu? Parce qu'on peut être né dedans et pas avoir le...
Absolument.
Voilà, pas avoir tout de suite l'amour.
Absolument, oui. En termes agricoles, la femme que j'aime actuellement est de parents... céréalier. Mm-hmm. Et donc c'est vrai que dans ces traditions familiales, on a plutôt tendance à pousser les enfants le plus possible dehors parce que c'est presque un échec de rester accroché à la terre et à la tradition.
Dur. Parce que c'est un travail qui est très dur.
C'est pas un travail dur, c'est un travail qui rapporte pas.
Qui est ingrat.
C'est plutôt ça, oui, voilà, absolument. Et effectivement, on a quand même la chance de faire partie des agriculteurs qui sont bichonnés parce qu'ils pèsent bien dans la balance commerciale, il faut bien le dire, et que sur assez peu de terres, et même des terres ingrates, on peut bien gagner notre vie. Mmh. Donc on n'a pas ce choix, le choix ne se pose pas sur des questions mercantiles ou des questions de niveau de vie, ça c'est déjà l'avantage. Après, bon, en ce qui me concerne, je dirais plutôt que c'est un non-choix. C'est un non-choix à deux niveaux, mais c'est un non-choix assumé et choisi. Oui, parce que en quelque sorte, et c'est assez rigolo parce que je me souviens du jour, je sais pas, c'est un petit peu comme le 11 septembre, on s'en souvient. Et j'étais devant le pressoir, un très vieux pressoir qu'on avait encore à l'époque, avec ma pelle. Je pense que j'avais 12 ou 14 ans, quelque chose comme ça. J'étais en train de charger la benne à marre. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai changé trois fois de métier aujourd'hui. Il fait beau, on est dehors, c'est plutôt chouette. Je vais plutôt faire ça. Je vais y rester. Mm-hmm. Donc, c'est un non-choix dans le sens que on a l'outil de travail qui évolue en même temps que nous et on sait très bien qu'on n'aura pas à faire un très grand apprentissage et à remettre en cause beaucoup d'autres choix. Mm-hmm. Premier non-choix. Et l'autre non-choix, c'est celui qui est choisi d'ailleurs, c'est que... On n'a pas besoin véritablement de choisir une activité très précise. Le matin, je peux faire du marketing. L'après-midi, je peux aller piocher la vigne. J'ai envie d'être dedans, il pleut, j'ai des choses à faire. J'ai envie d'aller dehors, je veux voir du monde, je fais un salon. En plus, le vin, c'est une grande famille. Donc, on n'a jamais de vérité en plus dans le vin. Chacun a ses choix vignerons. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'émulation autour du vin. Et donc en soi, c'est un non-choix. Le vin, c'est social, le vin, c'est technique, le vin, c'est agricole, le vin, c'est marketing.
Le vin, voilà, recouvre tout,
c'est technologique.
Tout, en fait.
Oui, c'est ça. C'est être omniscient, voilà.
Si avec ça, on ne parle pas de passion, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Alors, dans le domaine Buismateri, il y a de nombreux vins, de nombreuses propositions. Oui. Et notamment en ce qui concerne les cépages anciens ou oubliés ou modestes, selon le terme qu'on leur donne. Il y en a trois particulièrement, on peut parler, ou quatre, du Tibourin. Alors, Tibourin ou Tibourin ?
Ah, Tibourin, comme le Trien. Oui.
Très bien.
C'est ce fameux « an » qu'on dit « un ».
Très bien. Alors, Tibourin, Mourvaison,
oui.
Rosé Duvar.
Rosé Duvar qui s'appelle le Rousseli maintenant.
D'accord.
Parce que la chambre a fait changer le nom, parce qu'il vient de rentrer, pas encore officiellement, mais d'ici maximum un an, il sera à nouveau dans l'appellation.
D'accord.
Et on en a profité pour remplacer le nom, parce que... Un nom de cépage qui a une connotation géographique est assez problématique. Mmh. Parce que le matériel végétal, c'est un bien commun, un bien de l'humanité. Et donc, pouvoir planter du rosé du Var à Johannesburg et continuer à faire du rosé du Var, c'était problématique.
Bien sûr.
Donc, c'est devenu le Rousseli.
Très bien. Et enfin, l'Aubonne. L'Aubin.
Alors, l'Aubin, oui, c'est pas forcément le cépage le plus oublié. Mais si, quand même, c'est pas du Grenache ou du Carignan, absolument.
Et alors, quel a été le... C'est les parents qui ont commencé à travailler ces cépages ou est-ce que toi, tu as apporté... Tu disais, il y a des vins que j'ai créés, entre guillemets.
Oui, alors, voyez ici, on est deux types de vignerons. Il y a ceux qui ont fait la démarche à un moment de dire, oh, je vais planter des choses rigolotes, et ceux qui les ont découvert dans leur encépagement. Voilà, et moi, je fais partie de la deuxième catégorie. C'est-à-dire que mes parents se sont installés en 95 sur une parcelle, enfin sur un domaine qui faisait 13 hectares. Maintenant, on en a presque 60, pas tous plantés, mais quand même. Et on a repris énormément de petits domaines qui appartenaient à des petits vignerons qui amenaient ça à la coopérative et qui faisaient leurs propres assemblages, ou en tout cas leurs propres choix vignerons. Mmh. Et donc moi, j'ai un petit peu... avalé tous ces choix vignerons et je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mon père avait tendance à assembler un peu beaucoup plus que moi, et moi j'ai fait mes études en Suisse où on aime bien les monocépages, on aime bien les micro-cuvées, et donc il y a des cépages qu'on suivait depuis très longtemps parce qu'ils étaient là avant nous, avant qu'on s'installe. Mmh, ils étaient déjà plantés, on savait même pas forcément de quoi il s'agissait, et j'ai commencé à les vinifier à part et je me suis aperçu que c'était bon. L'histoire du Mourvaison, c'est ça, mon père l'a toujours fait en rosé assemblé avec des grenaches parce que c'était mûr en même temps, et un jour je lui ai dit bon, on va quand même essayer de faire ça en rouge, on va essayer, et c'est avéré que c'était très bon, et donc c'est parti comme ça. Dans le cas de l'Aubin, c'est vu que ça avait marché sur le Mourvaison, j'ai eu tendance à vouloir le faire avec tout ce qui passait et tous ces trucs curieux qu'on avait dans les vignes. On a fait passer aussi des empélographes pour certifier bien de quoi il s'agissait. Il a fallu que je modifie le cadastre viticole parce qu'évidemment, les vieux qui avaient planté ça n'avaient pas eu la présence d'esprit ou surtout pas l'honnêteté de dire que c'était pas de l'AOC. Donc il a fallu que j'appelle les douanes pour dire bon, il se trouve que j'ai du Mourvaison, est-ce qu'on peut peut modifier le CVI. Donc ça a été fait, tout ça. Et c'est parti comme ça.
Tu abordes un sujet là qui est effectivement qu'on ne connaît pas, enfin en tous les cas dont on n'a pas forcément conscience, c'est que ce sont des métiers aussi qui doivent se plier à énormément d'exigences
et donc
une lourde partie administrative qui est...
Dès qu'on commence à parler de... Il y a deux cadres administratifs en fait dans le vin. Vous avez le cadre des AOC, qui est un cadre qui est assez peu présent ici, parce que quand on parle de cépage oublié en général, c'est qu'on sort des cadres, ces cadres-là. Et ensuite, vous avez le cadre beaucoup plus large du catalogue viticole. Bon, le catalogue viticole, c'est un peu la même chose pour les légumes. Vous ne pouvez pas planter n'importe quoi parce qu'il faut avoir prouvé que le légume en particulier correspond bien à ce qu'on est censé vendre aux clients. Il ne faut pas oublier quand même qu'entre la patate et la morelle, c'est la même famille, mais il y en a un qui est toxique et pas l'autre. Et donc, le cadastre viticole, qui pourtant est extrêmement large, se heurte des fois à des envies de vignerons qui sont là. Ah, oh, mais on aimerait bien planter ça. Et ça, pourquoi ça fait 100 ans que c'est interdit?
Et donc, il faut faire évoluer les choses.
C'est ça, exactement.
Il y a un gros travail d'évolution. Alors, un petit accord mévin.
Alors, un petit accord mévin, vu qu'on parlait de l'Aubin et du Montvaison, j'ai voulu parler du mouton noir parce que c'est mon petit assemblage bébé, c'est mon petit dernier.
Qui a sa petite vie
depuis 2016. C'est un assemblage d'Aubin, Alicante, Morvaison, Syrah et Saint-Saulve. Donc c'est très collégial comme vin. Et c'était un petit mouton sautillant et trépignant, assez rigolo. Et donc, vu qu'il a des petits côtés un peu sauvages et assez complexes, j'ai pensé à la daube provençale, parce que c'est provençal déjà. Oui. Dans le cas du Morvaison, on est sur quelque chose de plutôt des Alpes-Maritimes, mais qui accepte la daube parfaitement. Et l'Aubin vient plutôt du Vaucluse, donc bien solaire aussi. Et le côté un petit peu sauvage du sanglier ou deux, parce que je le fais toujours au sanglier, j'oublie que normalement c'est au bœuf. Mais bon, bref. Donc au bœuf, ça va très bien aussi. Ces petits côtés orange que je conseille à tout le monde à mettre dans la daube comme dans le reboul traditionnel.
Qu'est-ce que c'est que le reboul ?
Le reboul, c'est le livre de recettes traditionnelles provençales. C'était la Bible en quelque sorte, juste avant l'explosion de l'internet et de la recette de tout un chacun, ça faisait partie des bibles culinaires de Provence.
Notez, voilà, prenez vos petits stylos et vos petits carnets et notez, parce qu'internet c'est bien, mais bon, voilà, les vrais livres c'est drôlement bien aussi.
C'est vrai.
Alors cette daube provençale, prenons. Qu'on soit bien d'accord, on prend la recette traditionnelle avec. Tu nous redis le nom du vin avec lequel.
Mouton noir.
Le mouton noir.
Voilà.
Très bien.
Le vin à contre-courant.
Parfait. Très bien. C'est toi qui choisis les noms.
Oui. En l'occurrence pour celui-là, oui. Le cadre des anciennes cuvées, la cuvée du paradis, non, elle date de mes parents.
Bien sûr. Mais c'est toujours celui qui crée le vin qui choisit le nom ou pas?
Oui. Vous savez, le choix vigneron, il faut qu'il soit assumé jusqu'au bout. Oui, c'est très personnel, le vin.
Très bien. Donc, tu as l'impression qu'il te ressemble, celui-là ?
Oui, pas mal. Oui. Celui-là, il est à mon image. Il est un peu foufou.
Alors, je t'ai demandé, comme à tous les autres aussi, de nous proposer un morceau de musique à partager.
Oui, je vous ai donné des sueurs froides.
Oui, parce qu'il m'a donné d'abord un très très beau Pink Floyd, mais qui dure 23 minutes, donc c'est absolument impossible, puisqu'on a quand même plein d'autres collègues à voir aussi.
J'avoue. J'avais pensé peut-être à un découpage, mais ça aurait été vraiment, vraiment méchant.
C'est toujours dommage de
chanter
les morceaux.
Oui, c'est vrai.
Donc, on s'est rabattu sur Brain Damage, qui est un petit peu moins long, faut bien dire ce
qui
est.
Oui.
Et alors, pourquoi ce Pink Floyd ?
Alors, mon deuxième choix aurait été Atom Heart Mother, qui fait aussi 23 minutes. Mais disons que déjà, le mouton noir et les vins que j'aime en général sont longs. La longueur, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et la persistance, ce qu'on pourrait appeler le goût de reviens-y, c'est vraiment la note qui m'importe le plus. Et donc... Le mouton noir, vu qu'il a 5 cépages, il va vraiment avoir cette espèce de variation. Et quand on est sur des concepts un peu symphoniques, où il va y avoir un thème qui va être repris et un autre thème, et puis après on va mélanger les deux, ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe en bouche quand on goûte un vin qui est complexe et qui parle beaucoup. Dans le cas de Brain Damage, c'était plutôt le côté aussi de Lunatic is on the grass, mon petit mouton un peu foufou et sur l'herbe. Je trouvais que c'était pas mal. En plus, c'est un morceau qui est assez mythique parce que c'est le seul qui répète le nom Dark Side of the Moon et qui est le nom de l'album. Donc voilà, c'est venu de là.
Comme quoi Pink Floyd traverse les générations.
Ah, certainement, oui. C'est imbattable.
Merci beaucoup Thomas
avec
de
plaisir.
Nous avoir partagé ce moment et venez, alors je vous rappelle qu'on est à Chabeuil au Centre Culturel, vous les retrouverez toutes et tous, toutes celles et ceux que vous allez entendre et voilà, vous entendez cette passion et c'est vraiment du bonheur. Merci beaucoup Thomas et on écoute tout de suite donc Brain Damage de Pink Floyd.
The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room on the hill, and if your head explodes with dark foreboding too, I'll see you on the dark side of the moon. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon.
Brain Damage, c'était Pink Floyd que vous aviez dans les oreilles. Vous écoutez Radio BLV 93.6. Nous sommes en direct de Chabeuil, au Centre culturel de Chabeuil, pour le salon des cépages et terroirs oubliés. Et nous allons vous faire découvrir entre midi et 2, là, jusqu'à 14h, eh bien, différents vignerons présents sur ce salon. Maintenant, j'accueille Hervé Bessière. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau.
Merci.
Et alors, Hervé Bessières, c'est le domaine Éole, et on pourrait dire c'est la passion en Val-Espire. Alors, c'est la passion, c'est un peu, je le disais tout à l'heure ce matin, c'est vraiment le fil rouge de la journée. Mais alors, je dirais que toi, c'est presque le champion.
D'accord. Oui, j'ai un parcours un peu particulier, ouais. Voilà. C'est sûr.
Tu as effectivement un parcours qui est assez singulier, puisque tu as découvert le monde, voilà, l'agriculture, le monde agricole au travers d'une AMAP.
Voilà. En fait, j'étais à l'université, donc je faisais des études en physique. Voilà, je n'avais jamais mis les mains dans la terre. Voilà, je voulais juste bien manger. Donc avec des copains, on a monté une AMAP dans la fac. Et puis le paysan avait besoin d'un coup de main assez souvent. Donc j'y allais et j'ai pris plaisir à faire du maraîchage, à découvrir ça, à mettre les mains dans la terre. Voilà, ça a été une belle découverte, sachant que bon, j'ai toujours aimé bien manger et bien boire. Oui, donc,
c'est vrai que...
faire la cuisine, etc. Voilà, au moins, je savais d'où venaient les produits. C'était oui. plus un inconnu, et je savais comment il fallait faire. Voilà, je me rendais compte aussi du travail, ce que c'était. Voilà.
Alors ça, c'est côté effectivement légumes, côté maraîchage. Oui. Mais comment du maraîchage, on glisse vers la vigne?
Disons que c'était une passion, le vin. Moi, quand j'étais jeune, j'allais pas en boîte tout ça. On allait dans les caves, on allait dans les restos, on faisait la fête autrement, quoi, on va dire. Je dis pas que j'ai pas fait le reste, mais mon argent passait surtout à acheter du vin, à goûter, etc. Donc c'était une passion que j'ai.
Ce qui est rare, jeune. C'est rare,
oui, voilà.
Pour les jeunes.
Mais on n'était pas très nombreux, ouais, c'est sûr, au lycée, à boire du vin en prenant le temps et tout, c'est sûr qu'on était un peu à part. Et l'agriculture me plaisait, j'étais militant associatif aussi à la fac, ça a commencé un peu à émerger dans ma tête, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce qui a du sens, etc. Et l'agriculture, je trouvais que c'était quelque chose qui avait du sens. Mmh. Et comment lier mes envies et la pratique, on va dire, c'était aller plutôt dans le vin. Parce que c'était un peu mystérieux pour moi. Voilà, j'avais envie de découvrir, de savoir faire du vin. Voilà. Et agriculture et vin, voilà. Bon,
c'est venu, c'est venu
on va dire, oui.
Tu disais que lycéen, donc vous étiez rare à aimer le vin, mais tu viens d'une famille d'amateurs de vin?
Mes parents m'ont toujours fait un peu goûter, oui. Ça oui. Assez jeune, quoi, tremper les lèvres, voilà, ce genre de choses. Donc c'est venu avec eux sûrement. Et puis le fait de bien manger aussi, hein. Enfin, c'est un tout, quoi. C'est une éducation, hein, le goût. Donc il n'y a pas que la boisson, c'est manger comme il faut, boire comme il faut. Donc oui, je pense que ça vient de là. Mmh. Oui, mais sans être
le
non
goût,
plus hyper amateur.
Voilà, oui, voilà. Le goût.
J'ai été bien élevé à des produits de la ferme, manger varié, de saison. Voilà,
le palais éduqué malgré tout.
Voilà.
Alors quand tu te lances, quand tu décides, tu dis moi ça me plaît, ce milieu me plaît, j'ai envie d'aller vers. Quand on n'est pas justement un descendant de vignerons, d'abord il y a du temps. Parce que comment ça se passe? On fait une école?
J'ai commencé, donc j'ai fait un petit tour en Bretagne donc, pour faire d'autres choses. Et puis je suis revenu dans le sud parce que ma compagne était enceinte. Et donc c'est là que j'ai commencé. Et j'ai commencé ouvrier. Donc j'ai passé un CQP, c'est un contrat de qualification professionnelle où on a une semaine de formation. Et on travaille après pendant 2 mois chez les exploitants. Donc on est salarié des patrons, mais on a une semaine de formation dans un lycée pro, quoi. Uh-huh. Pour un peu de théorie quand même. Donc ouvrier, donc j'ai fait toutes les tâches, tracteur, travaux manuels, cave, pendant un an. Pour vraiment me mettre dedans. Après, j'ai cherché du travail, j'ai continué à travailler dedans, donc ça continue aussi à former. J'ai passé mon BTS vitienno par correspondance. Ouais. Vu que j'avais déjà un master, ça m'a permis de le passer plus facilement aussi. Hein. Voilà, heureusement, il y a des passerelles, parce que sinon, ça aurait été un peu plus compliqué. On n'était pas très bien autour de Montpellier, donc on est allé encore un peu plus bas, on est retourné à Perpignan, dans la région de Perpignan, à Céré plus précisément. Et là, j'ai trouvé du travail à Montesquieu, donc à 10 minutes. Dans un domaine en biodynamie, le moulin de Breuil, là, qui s'arrête, malheureusement, le propriétaire est décédé, où j'ai pu, il m'a fait confiance, donc j'ai pu apprendre un peu plus à la cave, les levures indigènes, travailler naturellement, le plus naturellement possible, les vins et la vigne. Donc ça a été très formateur, encadré par Gilles Trouillet, un très bon vigneron aussi. Toujours dans l'idée de m'installer. Donc on verrait après comment faire pour trouver des locations. Ça viendrait après sur le tard. Mais déjà, j'étais en 5 ans, j'étais à peu près formé pour faire du vin de A à Z.
T'étais prêt?
je me sentais prêt, j'avais envie. Donc moi, c'est souvent ça qui guide quand même. Si la tête, elle suit, après le corps, il n'y a pas trop de... Le corps suit, ça me plaît.
Alors tu disais, oui, après, bah, il faut trouver, c'est pas tout de vouloir faire du vin, mais il faut trouver des, bah, il faut trouver des vignes, il faut trouver des parcelles à travailler. Comment, parce que c'est, encore une fois, on pense immédiatement, bah, on achète, ou on hérite, ou on achète. Mais il y a une autre solution qui est la location. Comme, alors, personnellement, j'ai découvert.
Le fermage, ça s'appelle. On devient fermier. Un fermier, c'est quelqu'un qui loue ses terres. Ouais. Elles ne sont pas à lui, mais il récolte le fruit de son travail.
Alors, sur des terres agricoles, ça paraît logique, mais alors sur des vignes, je ne savais pas que c'était possible.
Eh ben, c'est pareil, c'est les mêmes baux, 9 ans, 18 ans, 25 ans. Donc on loue, on paye une location à l'année, et puis ça peut être en nature, en vin, ça peut être en argent, on s'arrange avec le propriétaire. Moi, c'est des rencontres, hein. De toute façon, le milieu agricole, c'est des rencontres. Donc j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont présenté à d'autres personnes qui voulaient céder quelques parcelles, souvent des vieilles vignes pas mécanisables. Et moi, ça me plaisait justement, je ne voulais pas avoir de machine, donc j'ai eu que des vignes en gobelet, sans palissage. Magnifique, plutôt des vieilles vignes, donc parfait pour s'installer. Quoi. Mais du travail, c'est sûr, de reprise en conventionnel. Donc là aussi, les vignes qui étaient sous perfusion, donc ça aussi, c'est un petit travail, il faut en prendre soin. C'est un peu tout à enfin, c'est bête à dire, mais c'est un peu de la reprise. Il faut reprendre un peu à ce qui a été fait.
Oui, parce que là, tu as fini ta transition en bio.
Oui.
Donc juste là, cette année, ça y est, cette année, tu es en bio.
Sachant qu'on est en bio dès le départ. Mais la conversion en vigne, c'est 3 ans. Et donc, c'est à la 4e année qu'on a le droit de poser le label bio sur nos bouteilles.
D'accord.
Après, ce que je dis, c'est que ce label-là, qu'est-ce qui récompense ? Ce n'est pas le sol, ce n'est pas le raisin, c'est le travail du vigneron. Parce que le raisin qui est du glyphosate, l'arsenic, je ne sais quoi dans le sol, il faut 20, 30, 40, 50, on ne sait même pas combien de temps ça va disparaître. Donc, mon raisin, il est... toujours avec sûrement quelques traces de glyphosate, d'autres produits, mais c'est ma démarche à moi qui dit, ben non, moi je travaille proprement, je veux m'arrêter, on veut passer à autre chose, refaire venir la vie, quoi, dans la
c'est
vie.
C'est rare ce que tu viens de dire, c'est rare de l'entendre. Hein.
Oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité.
Mais c'est vraiment, c'est tout à ton honneur, mais c'est vraiment très rare de l'entendre.
Oui, oui.
Qu'effectivement,
parce qu'on dit, c'est pas bio, de toute façon, il y a la pollution atmosphérique, il y a les camions, la route, mais bien sûr, comme tout le monde. Mais c'est notre démarche qu'on privilégie avec le bio. C'est nous qui sommes contrôlés. C'est la vigne, en fait, et le vin sont rarement contrôlés, à part sur les sulfites. Mais sinon...
Alors toi, tu as fait le choix de travailler tout à la main, vraiment d'être le plus naturel possible à tous les niveaux. Pour toi, c'est une évidence ou il y a eu un petit effet mode ou c'est vraiment quelque chose qui est ancré ?
C'est ancré. Justement, c'est lié dans mon parcours associatif de vraiment faire proprement et c'est possible. De se passer justement de l'agro-industrie hein, parce que c'est, ça aussi, ça coûte cher, ça pollue. Enfin, c'est à cause d'eux aussi, en partie où on en est aujourd'hui. Donc, c'est une manière de se battre contre ça aussi. Et en effet, ça le va en poupe aussi, donc tant mieux. En effet, moi, mes vins, aujourd'hui, j'en présente que 4. Normalement, j'en ai une dizaine. Ouais. Donc, c'est vrai que ça marche bien et tant mieux. Mais j'estime que c'est aussi parce que c'est la qualité du vin en soi. Les gens reviennent souvent en me disant « Ton vin, il est bien digeste, on le boit bien, ça a un bon goût, on a pas mal à la tête, on est bien le lendemain. » Même si on en a bu un peu plus que de raison, donc c'est très bien.
Des fois.
Voilà, et ils sont une belle acidité, frais, facile à boire. C'est très bien.
Alors on est aujourd'hui sur le salon des cépages et terroirs oubliés ou anciens ou modestes, peu importe. Toi, c'est quoi tes cépages ?
Donc j'en ai
singuliers. On va dire
j'en ai deux. Le macabeu, qui est de moins en moins, qui a failli disparaître dans les années 80, mais qui revient à la mode, donc un cépage blanc qu'on trouve vraiment qu'en Catalogne et nord et sud, donc côté
dont
français,
on parlait
côté
avec
espagnol.
Frédéric Vaquet tout à l'heure.
Oui. Il y a quelques traces dans l'Aude, j'ai entendu quelqu'un vers Béziers qui en avait un, mais c'est vraiment en Catalogne et côté espagnol aussi. Et donc on peut faire tout, il y a des cavas, donc du pétillant, on peut faire des vins secs, là, on peut faire des rancios, des vins doux, on peut faire vraiment plein de choses. Et le deuxième, encore plus rare, qui est vraiment en voie de disparition, c'est le Yedoner pelu. Donc là, qui est vraiment catalan.
Oui.
Les Espagnols l'appellent le grenache poilu. Finalement, les Espagnols sont vachement plus conservateurs que les Français. Au niveau des raisins, ils ont quand même un beau panel. Ils gardent un peu plus leurs raisins, leurs cépages, du moins, rares. Et donc, ça serait une mutation du grenache. Et peloute, parce qu'il est poilu. La prune est un peu velue, et la feuille aussi. Et il est plus rustique. Donc pour moi, encore une fois, c'est une aberration. Il devrait rester parce qu'il résiste mieux à la sécheresse, il résiste mieux aux maladies. Après, il est un peu plus rustique, mais pour moi qui fais des vins sans intrants, il a du mal à se piquer. C'est-à-dire qu'il ne deviendra quasiment jamais du vinaigre. Mmh. Il reste avec l'acidité volatile, voilà, avec une acidité volatile très faible. Donc pour vinifier naturellement, c'est très intéressant.
Ouais,
et pour la garde aussi. Donc je comprends pas pourquoi il disparaît.
Alors justement, parce que c'est ce qu'on se dit aussi depuis ce matin, où on parle d'ampélographie patrimoniale et d'avenir, parce que ben on fait face, on le sait, à une évolution du climat notamment, et puis ben on le sait aussi dans la vigne, les maladies, elles ont été de tristes mémoires. Comment se fait-il que ces cépages-là, dont on prend conscience aujourd'hui, dont on découvre qu'ils sont beaucoup plus résistants, disparaissent? Est-ce que c'est parce qu'on répond à un goût du client?
Chez nous, je vais parler de là où j'habite, je ne parle pas pour les autres, il y a une pression immobilière qui est très forte déjà. Ah. Donc lotissement, maison de retraite, etc., camping.
Et donc,
voilà. J'ai mon yédonner pelu, on parlait de fermage, j'ai même pas un fermage, j'ai un commoda. C'est-à-dire chaque année, on se revoit avec la propriétaire, par contre c'est gratuit, et on resigne ou pas. Voilà. D'accord. Et cette année, ça s'arrête. Donc elle va être arrachée la parcelle parce qu'elle attendait que ça devienne constructible.
Et on peut pas replanter
elle va replanter des maisons.
Oui, non. Mais...
Après, on peut en replanter du yédonner, voilà. Il faut que les pépiniéristes en fassent.
Oui.
Mais après, on peut faire aussi des sélections massales, choses comme ça. Ce qui se fait dans le nord du département, dans
D'accord.
la Glie, ça se fait un petit peu plus. Mais sur les yédonnères pelus, je ne suis pas sûr que ça se fasse vraiment. C'est plus sur les carignans blancs, les macabeux. Mais le yédonnère reviendra peut-être. Mais on est quand même très peu nombreux à en avoir et à le préserver. Ouais.
On a l'impression de parler des espèces en voie de disparition.
Ah ben, c'en est une, hein.
C'est la même chose.
Ah oui, c'en est une. Ouais. Et après, il disparaît parce qu'il y a quand même des cépages à la mode. Mmh. Hein, on veut du grenache, on veut de la syrah.
Et oui.
Maintenant, on veut un peu le mourvèdre, on revient en force. Voilà, bon, il y a des... Il y a des modes par rapport à ça aussi, oui.
Alors, je te demande à toi comme aux autres une recette, voilà, avec un accord mets vins, un de tes vins. Donc tu as choisi un de tes vins et une recette.
Eh bien, la Solera, là, le macabeu justement, qui est, c'est pas un rancio parce que c'est une appellation, on a un rancio, donc il n'est pas assez vieux, pas assez alcoolisé pour être rancio. C'est un vin qui vieillit en damjane et en barrique à l'extérieur.
Mmh.
Et donc c'est très oxydatif comme les Banyuls, mais sans le côté sucré. Donc c'est un rancio sec, on appelle ça. Enfin, typé rancio sec, je ne sais pas, un rancio sec. Et donc ça irait bien avec des fromages bien affinés, des vieux comtés, des salaires, des choses comme ça. Mais moi je pensais des joues de porc avec une sauce au rancio. Voilà.
Ah, et alors ça, on trouve la recette où?
Sur internet, ça doit se trouver. Joue de porc au Banyuls. Il n'y a qu'à remplacer le Banyuls par un rancio sec. Et,
d'accord.
Et, voilà. Et accompagné voilà. de ce vin-là, voilà, c'est très bien.
Super. Alors pour venir le découvrir, vous venez au Centre culturel à Chabeuil. Et Hervé se fera un plaisir de vous le faire découvrir.
Bien
et puis
sûr.
Vous voyez, ils sont passionnants. Ils sont passionnés et donc passionnants. Et avant de se quitter, je t'ai demandé aussi, comme aux autres, un morceau de musique et tu as choisi The Chemical Brothers avec The Solomon Dance. Pourquoi?
Parce que j'aime bien cette musique. Je trouve qu'avec un verre de vin, elle est très, très changeante, hein, avec la musique électronique. Voilà. Et je trouve qu'elle elle permet de s'évader comme il faut. Elle accompagne bien n'importe quel vin, quoi, en fonction de comment on est. Et si jamais vous regardez le clip, il est amusant aussi. Et puis il y a un côté absurde. Moi, j'aime bien ça. Donc, voilà, c'est... Si vous comprenez les paroles, voilà, c'est rigolo. Il y a un décalage quoi, qui est amusant.
Alors,
voilà.
On va pour l'absurde et puis pour la passion, encore une fois. Et ben, venez retrouver Hervé Bessière, qui est donc... C'est le domaine Éole. Attention, pas le domaine d'Éole, mais bien le domaine Éole. Si vous cherchez sur Internet, vous allez découvrir son... Voilà, Acéret. Merci beaucoup.
Et merci.
Hello, boys and girls. My name is Fat Lip. And this is my friend, Sammy the Salmon.
What to do?
Today, we're going to teach you some fun facts about salmon and a brand new dance. Let me introduce to you a brand new dance. I know you're gonna love it if you give it one chance. It's not complicated.
hip hop star. See, anyone can do it, all you need is staff. Listen up, peep gang, I'ma show you how. Put your hands to the side, as silly as it seems, and shake your body like a salmon floating upstream.
After spawning, then we die.
When I first did the salmon, all the people just laughed. They looked around and stood like I was on crack. I heard somebody say out loud, what the fuck is that? This nigga's dancing like a fish while he's doing the snap. But the more I kept doing it, the more they were feeling it. And then I heard some bitches say, yo, that nigga's killing it. By the end of the night, everyone was on my team and
go to Japan and back.
You kidding me? Amazing. Jeez.
Polluted waters can kill both baby salmon that are developing and the adult salmon that are on their way to spawn.
Wow, what a shame. What a shame. Huh? Whoa. Wow. Hey, kids. Hey, give it up for Sammy the Salmon and his amazing salmon dance. Huh? What do you say? All right. Who's hungry?
Vous écoutez Radio BLV 93.6. Vous êtes bien installé dans le salon des cépages et terroirs oubliés. Et comme je vous l'ai promis tout à l'heure, eh bien notre rêveur baroque est venu nous rejoindre sur le salon. Le coquin, vous imaginez bien, quand il a entendu parler de vin, était fort intéressé. Et donc, cher rêveur baroque, eh bien tu nous as concocté des accords, non pas mais vin, mais musique et vin.
Voilà, un petit peu, et puis je vous propose un petit peu différentes choses, des histoires, des anecdotes autour du vin de la musique, du vin de l'amour, du vin et des mathématiques même, du vin et du théâtre, in vino veritas, locution latine qui signifie dans le vin la vérité. On la trouve dans Pline l'Ancien. Des proverbes similaires existent dans de nombreuses cultures. En chinois, après le vin, on a la parole vraie. Dans le Talmud babylonien, vient le vin, vient le secret. In vino veritas est aussi le titre d'un essai philosophique écrit en 1844 par Søren Kierkegaard. Il s'agit d'un récit qui rapporte dans la tradition de banquets platoniciens les discours de cinq convives sur l'amour. Mais cette maxime in vino veritas est souvent extrapolée. In vino veritas, in aqua sanitas. Dans le vin, la vérité. Dans l'eau, la santé. Après ce prélude, je vous propose qu'on s'amuse un petit peu sur les effets du vin. Une série de proverbes recueillis dans les Curiosités françaises d'Antoine Houdin classe les vins en fonction de l'effet qu'ils produisent. Le vin d'âne, qui rend la personne assoupie après avoir trop bu. Le vin de cerf, qui fait pleurer. Le vin de lion, qui rend furieux et querelleur. Le vin de pie, qui fait cajoler. Vin de renard qui rend subtil et malicieux. Vin de singe qui fait sauter et rire. Vin de porc qui fait rendre gorge. Cette ménagerie de l'ivresse dérive peut-être d'une parabole talmudique lorsqu'après le déluge, Noé planta la vigne. Satan, qui l'est pillé, vient lui apporter son aide. Il sacrifia successivement une brebis, un lion, un singe et un porc et arrosa le cep de leur sang. Satan signifie ainsi qu'en buvant un verre de vin, l'homme deviendrait doux comme une brebis. En en buvant deux, il deviendrait pareil à un lion, plein d'arrogance. Avec trois verres, il ressemblerait à un singe, exubérant et débauché. Et complètement ivre, l'homme serait semblable à un porc vautré dans son abjection. Maintenant, un peu de mathématiques avec le niveau de Bordeaux. Dans les ventes de grands crus et vieux millésimes de vin de Bordeaux, on emploie une nomenclature très précise pour décrire le niveau du vin dans la bouteille. I au goulot, 2i mi-goulot, 3i très légèrement bas, 4 légèrement bas, 5 hautes épaules, 6 mises épaules, 7 basses épaules, 8 très basses épaules, 9 vidanges. Pour les autres crus, on mesure le niveau en centimètres au-dessous de la capsule. Alors là-dessus, je me sens musicien, une portée de 8 lignes, quelques indications, et on est dans la danse et la musique baroque française. Maintenant, passons à mythologie, religion, tradition populaire, avec les nomenclatures des bouteilles. Piccolo, un quart en champagne, chopine, un tiers en Bordeaux, fillette, un demi en Bordeaux et dans les autres, en Bourgogne et en Champagne, magnum, 2, Marie-Jeanne, 3 uniquement en Bordeaux, double magnum, 4 en Bordeaux, Jéroboam, 4 en Champagne, Réoboam, 6 en Champagne et 6 en Bourgogne, Mathusalem, 8 en Champagne, 8 en Bourgogne, Salmanézar, 12 en Champagne, 12 en Bourgogne, Balthazar, 16 en Champagne, 16 en Bordeaux, 16 en Bourgogne. Nabucodonosor, 20 en Champagne, 20 en Bordeaux, 20 en Bourgogne. Et Melchior, 24 en Champagne, 24 en Bordeaux, 24 en Bourgogne. Voilà, alors peut-être que Juliette Gréckos a pensé à la fillette en écrivant cette chanson « Fillette ».
Si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, ça va, que ça va, que ça va durer toujours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleils et planètes tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Très sournois s'approche la ride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi. Allons, cueille, cueille les roses, roses de la vie, roses de la vie. Et que leurs pétales soient la mer étale de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, cueille, si tu le fais pas, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres.
Juliette Gréco, si tu t'imagines, c'était le choix de notre rêveur baroque dans ce salon des cépages et terroirs oubliés. Nous sommes à Chabeuil. Venez vite retrouver les vignerons, les 15 vignerons et vigneronnes qui vous attendent. Dans ce salon, c'est au Centre culturel à Chabeuil. Venez, vous verrez, l'accueil qui vous sera réservé est absolument délicieux parce que ce sont des gens passionnés et, ma foi, fort sympathique. Et on continue d'ailleurs notre exploration en terre vigneronne avec Laurent Fondimard. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et bienvenue. Laurent Fondimard, du domaine des Rutissons qui se trouve au Touvet.
Exactement.
Touvet. En Isère.
Voilà, vallée du Grésivaudan, la vallée de Grenoble. Donc on est au Touvet, pile poil entre Grenoble et Chambéry, sur les coteaux de la Chartreuse.
Très bien. Alors, avec une particularité, puisque c'est en IGP, une IGP Isère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une IGP, déjà ?
Alors, l'IGP, en fait, ça veut dire Indication Géographique Protégée. C'est une nomenclature européenne. En fait, en France, à partir de 2010, on a basculé d'une législation française à une législation européenne. Donc, avant, ça correspondait aux 20 pays. Et en fait, on a demandé à tous les 20 pays s'ils voulaient basculer en IGP ou en vin de France. Donc en gros, c'était soit on vous monte d'un curseur en IGP, soit on vous rétrograde en vin de France. Et donc, on a pris le pli de passer en IGP, sachant qu'on est passé sur une IGP départementale. Avant, on était en 20 pays des coteaux du Grésivaudan. Il y avait deux vins de pays en Isère, donc Balme Dauphinoise et Grésivaudan. Et on a toutes... inséré dans la même IGP, donc IGP Isère, avec des mentions Grésivaudan ou Bam Dauphinoise.
Et alors la différence entre AOC et IGP ?
Alors IGP, en fait, on est sur des notions qui vont être, nous, pour notre part, en Isère, assez proches. C'est-à-dire qu'IGP et AOP, ce sont des appellations qui vont donner lieu à un cahier des charges, donc à des restrictions, en fait, à un cadre en fait, de production. La seule différence entre l'IGP et l'AOP, c'est que l'IGP va être plus large en termes de zone géographique. L'AOP va être très restrictive. Par exemple, sur une commune, on va avoir un terroir qui va être identifié. On va être vraiment à la parcelle, alors que sur l'AOP, on va être à la commune. Donc la seule différence, ça va être ça. Et sinon, on va avoir une réglementation sur les modes de production, sur les cépages qui sont autorisés et qui ne le sont pas, sur les rendements, etc., comme une AOP, en fait. Mmh.
Donc là aussi, bon, un cadre très précis dans lequel il faut rentrer, auquel il faut veiller. Toi, donc vous êtes deux sur le domaine des Rutissons.
Tout à fait.
Wilfried de Broise et toi-même.
Exactement.
Comment, toi, est-ce que tu es né dans le vin ou est-ce que tu y es venu ?
J'adore cette question. J'adore cette question parce que moi, je suis originaire de Normandie.
Oui.
Donc moi, je suis plutôt élevé dans la crème, le cidre et le calvados. Et en fait,
la crème, ça va en Dauphiné, on t'accepte.
Oui,
plaisir.
C'est ce que j'adore dans cette cuisine d'ailleurs. Non, c'est les hasards de la vie qui ont fait que voilà, je suis arrivé dans le Grésivaudan. Les hasards du cœur, en fait. Et c'est une région qui m'a adopté, que j'ai adopté. Et voilà, on est arrivé comme ça, ouais. Un peu hors sol. Mais
pourquoi le vin ? Comment on vient au vin ?
Les ressources, les racines agricoles, en fait. Comme beaucoup de gens en France, mais moins en moins quand même. J'ai des grands-parents qui étaient agriculteurs, chez qui j'ai passé le plus clair de mon enfance. J'ai fait des études agricoles, ça me tenait vraiment à cœur. Et puis, quand on est ado, voire même quand on est un peu plus ancien, la vingtaine, on n'a plus du tout la tête à ça. Moi, j'avais mis ça un peu de côté, donc j'ai fait des études agricoles. Je suis ingénieur agricole, mais je travaillais dans l'administratif. Je voyais ça quand même de loin, dans l'administratif agricole. Et puis, à la trentaine, pour ma part, on prend un peu de plomb dans l'aile et on redescend un peu sur terre. Et je me dis, Laurent, c'est pas ce que tu veux faire, en fait. Tu ne veux pas être dans les bureaux toute ta vie. Je voyais passer des porteurs de projets à longueur de journée. J'ai dit, moi, je veux faire ça, je veux faire comme eux.
Moi aussi, je veux un projet.
Ouais, je veux m'installer. Et je travaillais déjà chez le grand-père de ma compagne pour l'aider à la vigne. Il avait un arpent de vigne, il avait des vaches, des noyers, mais les vaches et les noyers, ça ne m'avait jamais attiré. Et la vigne, ouais. Et en fait, surtout, je voulais faire quelque chose de mes mains et quelque chose qui me ressemble. Je voulais créer un produit, en fait. Et en levain, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Tu cultives la vigne, au final, tu transformes et tu vends une partie de toi, tu vends la bouteille que tu as fait avec tes tripes. Et ça a commencé comme ça, en fait.
C'est marrant parce que c'est Thomas tout à l'heure qui nous disait ça aussi. Effectivement, le vin, c'est très intime, en fait.
C'est très personnel. Ouais.
C'est très personnel et c'est très intime. Donc, c'est vraiment quelque chose dans lequel on met tout. On met ses tripes, on met qui on est aussi.
Mais je pense que... Alors, le salon est aujourd'hui assez représentatif, en fait. Ça dépend de la manière dont vous avez envie de travailler. Il y a des gens qui sont des producteurs. Et pour le coup, c'est très impersonnel. Uh-huh. Et je dis nous parce que Wilfried m'a rejoint en 2015, le domaine est créé depuis 2010 et maintenant on chemine ensemble, mais on a vraiment cette vision commune où on se dit on fait quelque chose, mais ce quelque chose, justement, on veut l'incarner, on veut l'humaniser, on veut lui donner un sens, et pour le coup on y passe tellement de temps, c'est vraiment une partie de nous. Ouais.
Oui, on y passe beaucoup de temps effectivement, parce que toi vous êtes en agriculture raisonnée, vous êtes en bio, vous êtes en biodynamie, en quoi ?
Alors, j'allais dire, on fait tout ça, sauf le raisonné. On a repris en fait quelques parcelles sur ce secteur. On a commencé comme ça et tout le reste, on l'a replanté. Il n'y avait plus rien. Hein. La vigne, elle était vraiment en train de disparaître. Et on s'est dit, quitte à recommencer quelque chose, on recommence sur des bases saines. Donc, on est en agriculture biologique. On est labellisé depuis 2017. On fait de la biodynamie, bien sûr. Et on vinifie. Alors, c'est moi qui m'occupe de la vinification. On vinifie le vin de manière le plus naturelle possible. Donc, on se rapproche. Enfin, on est dans les vins nature. Même si les vins nature ont un cahier des charges qui peut être assez... Je ne vais pas dire qu'on y met ce qu'on veut, mais qui peut être assez large. Et aujourd'hui, il n'y a pas de certification. Donc, c'est vraiment la volonté de chacun. Mais on travaille quasiment sans sulfite ou très peu. On travaille tout en levure indigène, bactéries indigènes, on chaptalise pas. Donc l'objectif, c'est vraiment de ce qu'on le terroir nous donne, ce que le raisin va nous donner.
Le plus proche de ça.
Voilà, on transforme le vin avec, mais surtout en jouant pas les petits chimistes. Ouais. Toujours pareil, en gardant quelque chose une part de nous et quelque chose de naturel. Ouais.
Garder la personnalité vraiment du terroir et du cépage.
D'accord. Et du millésime, je pense à ça, et parce que cette année, on a un millésime qui est très particulier, qu'on n'avait plus l'habitude d'avoir. Et donc les gens vont être déstabilisés en goûtant ce millésime, parce qu'on va être sur un millésime qui sera atypique par rapport aux années précédentes, qui était très chaude, qui sera plus conventionnel, entre guillemets, par rapport à il y a 10 ans, parce qu'on a fait du vin un peu comme il y a 10 ans, avec des millésimes un peu plus froids. Mais ce sera très différent. L'objectif, ce n'est pas de faire le même vin tous les ans. C'est vraiment d'avoir un effet millésime, de mettre en avant l'année qui s'est écoulée. Ouais.
Ça, c'est intéressant aussi. Alors, on est ici sur le salon des cépages et terroirs oubliés. Vous en travaillez trois, si mes informations sont bonnes, puisqu'on a Étrère de la Duy, qui, je trouve que ce nom est d'une poésie incroyable, Verdès et Persan.
Exactement.
Alors, tu peux nous en dire un peu plus sur ces trois cépages particuliers ?
Alors, c'est les trois cépages qu'on commercialise aujourd'hui. On en a plus maintenant et on en a dans nos vieilles parcelles des myriades. C'est ce qui est super intéressant. Donc, la Verdès, c'est le cépage blanc de la vallée du Quasi-Vaudan. C'est le nom du cépage. Effectivement, il y a des noms qui sont très poétiques parce qu'on est sur des noms ruraux, en fait, qui sont basés sur l'observation des anciens. Et la Verdès, en fait, c'est un cépage qui est vert franc. Et juste avant les vendanges, enfin juste avant 3 semaines, 1 mois avant les vendanges, les raisins, ils sont vraiment verts, très vifs, très acides, quoi, presque fluo. Et le nom du cépage vient de là, en fait. Et puis, c'est des cépages qui ont une belle tenue, une belle fraîcheur. Des années où c'est pas très mûr, une belle verdeur aussi.
D'accord.
Donc, tout ça semblait à donner la Verdès. C'était un cépage qui était élaboré, avec lequel on a élaboré une méthode traditionnelle. Du coup, on dit que c'est le cépage de la vallée, mais on en retrouve que sur certains spots particuliers, et notamment sur une commune juste à côté du domaine, à Sainte-Marie-d'Alois, où on faisait des effervescents, et sur les coteaux de la Tronche à Grenoble. Ensuite, les traits de la Duy, vous avez raison, c'est très chantant. Ça vient du fait que les raisins, donc là on est sur un cépage rouge, c'est la moitié des vignes qui étaient plantées donc dans le Grésivaudan en ce cépage-là. Donc c'est vraiment l'âme du Grésivaudan. Et Étrère, donc ça vient du fait que les raisins sont assez étroits, donc les anciens étroits Étrère, un peu en forme d'olive. Ça donne des gros raisins, mais effectivement un peu allongés. Et de la Duy, en fait, parce que retour des croisades. Alors, je ne me rappelle jamais du nom de ce croisé, il faudra que je le note un jour. Il aurait trouvé un super cep le long du ruisseau de la Duye à Saint-Imier. Donc Saint-Imier, c'est un, j'allais dire un village, maintenant c'est une ville qui touche Grenoble. Et qui a, la Duye, c'est un ruisseau qui descend de la Chartreuse. Donc on a vraiment, ce qui est génial dans ce nom, c'est qu'on a vraiment cette entité géographique.
Ouais.
Dans le nom, on a la localité et le ruisseau de la Duye, il coule toujours, il existe toujours.
Et à la fois très imagé.
Et à la fois très imagé, ouais, tout à fait. Ouais, ouais.
Et le persan ?
Alors le persan, c'est le petit cousin ou c'est le parent qu'on a adopté. En fait, le persan, à l'origine, il vient de Maurienne, de Saint-Jean, Saint-Julien-de-Mont-Denis, Saint-Jean-de-Maurienne. Et c'est un cépage qui a été oublié complètement dans ces contrées-là. Par contre, la vallée où ça a été développé, où ça a été commercialisé, planté, c'était le Grésivaudan. Et nous, toutes nos vieilles vignes, on a des pieds de persan. Et du coup, on sait ce qui venait dans les années 50, tout de suite derrière les Traires. C'était le deuxième cépage qui était planté. C'est ce qui a aussi donné la réputation des vins du Grésivaudan. Et du coup, c'est un cépage qu'on continue à mettre en avant et qu'on met en avant, sachant qu'on est sur des vallées alpines. La vallée de la Maurienne, c'est la vallée qui est derrière la vallée du Grésivaudan. On est quand même sur des vallées qui sont très proches, avec des points de communication. Donc voilà, c'est le, je dis c'est le parent, parce que génétiquement, ils sont parents entre, avec le persan et les Traires. Il y en a un qui est parent de l'autre. Ouais.
Alors, comme aux autres, je t'ai demandé de réfléchir à un accord mes vins, avec un des vins. Alors, quel vin as-tu choisi ?
J'ai choisi les Traires, ouais. Parce que c'est vraiment le cépage qui est je vais aller plus loin si on a un petit peu de temps. C'est le cépage qui a fait vraiment la réputation des vins du Grésivaudan. Alors je la sors à chaque fois, mais les vins du Grésivaudan, c'était les 20, on appelait ça les 23. Alors je pense comme dans beaucoup de régions d'ailleurs, mais c'était un qui boit et deux qui tiennent celui qui boit. Et les Traires, c'est vraiment celui qui a donné cette réputation-là. C'est des cépages qui sont très tardifs, très acides, qui produisait beaucoup. Donc en fait, on sortait des vins à 6-7 degrés, très durs. C'était vraiment très très dur à boire. Il n'y a que les gens du cru qui aimaient boire ça. D'ailleurs, ils le coupaient à l'eau, ils le coupaient avec du sucre, etc. Et c'est des cépages qui ont été délaissés. C'est pour ça que ces cépages-là ont failli disparaître, parce que justement, très dur à vinifier, très dur à boire. Et on s'aperçoit qu'il y a quelques anciens qui se sont accrochés à ces cépages-là. Aujourd'hui, on est 3 à le vinifier, 3 vignerons. On est une dizaine d'autres à en avoir replanté. Et je pense que c'est des cépages qui ont un vrai avenir. Et moi, ce que j'aime dans cette histoire, en fait, c'est que c'est des cépages qu'on a bannis et qui vont, dans quelques années, retrouver leur lettre de noblesse, parce que justement, il y a une prestance, il y a une présence, il y a un caractère. Les Traires, c'est très léger, c'est très cerise. Il y a cette petite acidité derrière. C'est vraiment un vin unique. Vous allez vous goûter un des Traires et ben ça va vous déstabiliser. J'ai vu des gens tout à l'heure au salon qui nous dit
pour l'avoir goûté,
on n'a pas l'habitude. Mais une bonne déstabilisation, en fait. Ça vous met une petite claque et vous dites
oui, j'en ai acheté derrière.
Non, pas ici, mais avant.
Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce cépage en avant. Ouais. Ouais.
Et alors, quel est l'accord avec lequel tu nous le proposes ?
Et ben depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est assez léger, ça peut être assez vif. C'est très fruits rouges, cerises. Et en fait, il faut, pour faire un bon accord mets vins, en fait, il faut avoir un plat qui complète ou qui complémente. Donc, on va prendre un plat qui est plutôt gras. Donc gras avec de la crème ou pas, parce que je pense à un gratin, les gratins savoyards et les gratins dauphinois, il y a des petites subtilités, mais moi j'aime bien le gratin avec des pommes de terre et de la crème, et pareil avec une viande blanche, mais une viande avec, en ce moment c'est la saison, on est sur la fin des champignons, mais avec une viande blanche avec une sauce crémeuse avec des trompettes, et là ce sera super bien.
Waouh.
Parce que l'acidité du vin et son petit côté franc, subtil, va vraiment s'arrondir avec la crème qui va vraiment venir, le côté gras va vraiment venir l'exaucer, l'exacerber. Et ça va être vraiment super sympa. Ouais. Et on reste sur des plats simples, des plats de saison en plus.
Oui.
Et des plats locaux, en fait. Le but, c'est pas d'aller chercher des plats. Alors, ça va s'accommoder avec d'autres plats, mais là, on va vraiment être sur quelque chose de très local, assez simple, mais vous ferez plaisir. Ouais.
C'est ce qu'on appelait les plats de ménage aussi.
Exactement.
Le gros plat de gratin dauphinois du dimanche avec le poulet rôti. Et alors, si on rajoute quelques trompettes et une petite sauce à la crème, ma foi, tout va très, très, très bien. Après la dégustation, on va faire déguster nos oreilles. Et je t'ai demandé à toi aussi, comme aux autres, de nous proposer un morceau de musique. Tu as choisi London Grammar avec Wasting My Young Years. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une petite nostalgie. Alors, London Grammar, c'est pas très vieux, mais comme je dis, je viens de Normandie. On était quand même très proche. L'Angleterre est quand même juste en face.
Oui.
Et moi, j'ai été bercé, il n'y avait pas du tout de culture musicale à la maison, mais j'ai une culture assez anglo-saxonne, en fait, rock anglo-saxon, rock anglais. J'aime beaucoup justement ce côté un peu, on a ce temps-là en ce moment, là, brouillard, un peu froid, aller se réchauffer au coin du feu ou au coin d'un pub ou avec un bon vin, ces soirées qui se finissent super tôt à 17h30, il fait nuit. Et j'aime bien cette ambiance et London Grammar, j'aime beaucoup pour ça en fait. Et voilà, ça me faisait rappeler tous ces souvenirs. Ouais.
Alors avant juste de se quitter, tu parles de Normandie. Avec un camembert, tu nous proposes lequel de tes vins?
Avec un camembert, je mettrais bien un persan, ouais, qui est plus puissant, un peu plus tannique, un peu plus rustique. Effectivement, avec un bon camembert ouvert depuis une dizaine de jours, je pense que ce sera très bien.
Ouais. Qui va tout seul. Très bien, merci beaucoup, beaucoup Laurent d'avoir été avec nous. Et puis ben, venez encore une fois, venez retrouver en vérité, voilà, en vrai, venez goûter ces vins. Tout de suite, c'est London Grammar, Wasting My Young Years. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
I don't know.